Le réveil culturel. Toufik Hakem.
C'est l'histoire d'un tournage de film, mais pas n'importe lequel, de Misfits, les Désaxés en français, que John Huston tourne au Nevada en 1960. Il y a Arthur Miller et Marilyn Monroe, Clark Gable, Montgomery Clift et Lee Wallach à faire revivre en dessin. C'est l'histoire d'un tournage, les coulisses d'un grand film crépusculaire, dans une grande bande dessinée mélancolique, en noir et blanc comme le film bien sûr. Cette bande dessinée éditée chez Futuropolis a pour titre Hollywood Monteur. Son auteur Luz est l'invité du Réveil Culturel. Bonjour tout le monde, bonjour Luz.
Bonjour Toufik.
Le Réveil Culturel. Vendredi, bande dessinée.
Faut-il remercier les Cahiers du Cinéma? C'est eux qui vous ont donné cette idée de raconter le tournage de ce film de John Huston pour leur revue?
Alors non, c'est pas eux. Je crois qu'il faut remercier le cinéma indépendant déjà. Il faut remercier, je pense que c'est le Champollion, là où j'avais vu les Misfits, donc dans un vrai cinéma, dans une vraie salle, avec des vrais fauteuils.
Grand écran,
le vrai imaginaire, en 2014, avec mon épouse, on venait de se marier à Las Vegas, et puis on va regarder les aventures de Marilyn, de Roselyn, de Gay, de Pierce, de ces cow-boys et de cette femme un petit peu apparemment perdue dans le désert du Nevada. Et quelque chose s'est insinué en moi, une espèce de... Peut-être, je sais pas, peut-être une intrigue, c'est pourquoi j'aimais ce film, pourquoi tout d'un coup ça ne m'a plus jamais lâché. Et puis il a fallu que j'aille au fond de moi. Pour aller au fond de moi, il faut que je dessine, ça c'est la base. Et puis finalement, entre-temps, en janvier 2015, je suis rentré dans un... Tiens, on peut dire que je suis rentré dans un grand film. J'étais au milieu d'un grand film, d'un grand spectacle, d'un grand Barnum. Et peut-être que de se réintéresser à un autre film, ça a peut-être été une manière aussi de sortir du mien, de sortir de mes propres backstage, de mes propres coulisses, de cette propre réalité. Il a fallu que j'aille...
Ce film, votre vie, c'est bien sûr Charlie, les attentats de Charlie.
Et oui, et l'autre film, c'est Les Misfits, qui a été tourné en 1960. Et voilà, j'avais envie d'aller voir ce qui se passait derrière. Peut-être voir ce qui se passait derrière cette obsession. Voir ce qui se passait derrière ma tête aussi. Et plus, peut-être, j'ai pas trop emprunté au code du cinéma, mais il y a quelque chose que j'ai d'office emprunté, c'est zoomer. J'ai voulu me rapprocher des acteurs, me rapprocher de la vie. Peut-être de la vie réelle, et la vie réelle, parfois, c'est l'imaginaire. La vie réelle, parfois, c'est le cinéma.
Alors, je vous dis ça, Luz, parce que Hollywood Menteur, qui sort d'ailleurs aujourd'hui, en librairie, réunit un peu ce que vous avez livré au Cahiers du Cinéma. C'est-à-dire que ça a été déjà prépublié par cette revue de cinéma. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Est-ce que l'idée venait d'eux, plutôt, ou c'est vous qui êtes allé toquer à leur porte, parce que vous aviez déjà travaillé avec eux, pour leur proposer...
Alors oui, effectivement, j'avais travaillé avec eux...
Avec une
improbable, parce qu'ils m'avaient juste demandé de faire le dernier numéro de décembre 2015 pour résumer un petit peu l'année 2015. Et puis je me dis pas, tiens, je suis très flatté, c'est un journal que j'aime bien. Donc allons-y. Et le temps de réfléchir sur l'idée de cette couverture, le 13 novembre est arrivé. Voilà, le temps de réfléchir à cette une. Et donc la une des Cahiers du Cinéma, donc de novembre, sorti en décembre, et de novembre 2015, sortait une une de moi, mais qui parlait plus du 13 novembre, et qui n'était pas un bilan de l'année, mais qui était peut-être malheureusement une forme de ressuscité de l'année, on va dire. Un remake.
Alors, et cette histoire, l'histoire du tournage du film de Misfits, publié par les Cahiers, comment ça s'est fait?
Ça c'est tout bêtement, moi, il y a déjà ce cousinage avec les Cahiers, et quand j'ai continuer à travailler dessus, à sortir des choses, à essayer de comprendre, à zoomer, à aller dans les backstage de ce film, juste pour moi, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on m'aide. Et c'était déjà la même chose après le 7 janvier, c'est que j'avais commencé à faire des dessins, je me réappropriais mon dessin, et j'ai cogné à la porte de Futuropolis, précisément j'étais allé voir Alain David qui avait déjà publié Cabu, Et je lui ai dit, écoute, il faut que tu m'aides là. Je suis en train de faire des dessins. Je sais pas, il faut, il y a quelque chose qui doit sortir de moi. Et j'ai fait un peu la même chose avec les cahiers du cinéma en me disant, écoutez, je suis en train de m'obséder sur un film. J'ai envie de raconter les coulisses des Misfits, de ce film, voilà, Crépusculaire, Marilyn, Clark Gable, Montgomery Clift. Mais il y a quelque chose derrière. Et je suis obligé de, quelque part, je suis obligé de le faire. Donc, il faut que je trouve un endroit pour le faire. Est-ce que vous voulez m'accueillir? Est-ce que vous voulez accueillir un dessinateur obsessionnel? Et ils m'ont accueilli. Et ça a fait, pendant 2 ans, on a travaillé ensemble. Ça a fait quelques planches qui, au début, parlaient du cinéma, parlaient de backstage, parlaient de coulisses, parlaient d'une fabrication de films. Et finalement, après, j'avais 40 pages, j'avais envie de faire un bouquin. Et c'est devenu autre chose. Oui, c'est une bande dessinée. Une bande dessinée, ouais. Une bande dessinée qui parle de l'illusion. Une bande dessinée, un film, un livre, tout ça, c'est la même chose. L'imaginaire, c'est ce qui nous fait vivre. Donc, c'est normal qu'on fasse des confusions.
Et vous avez beaucoup travaillé, Luz, parce que ça se lit comme une fiction, hein. Même si le film existe, même si tout le monde connaît ce film, ça a été un échec commercial à sa sortie. Mais après, il a tout de suite gagné son statut de film culte, hein, parce qu'il va se passer plein de choses. Vous êtes beaucoup documenté. Même si, je le redis, on lit cette aventure comme si c'était une fiction, une pure fiction.
Disons que il faut s'appuyer. Moi, je me suis toujours appuyé sur la réalité pour imaginer la réalité de l'ambiance politique du moment quand je faisais du dessin de presse ou tout simplement pour faire du reportage, j'allais voir ce qui se passait, les manifs, etc. Et là, c'est un peu la même chose. Il fallait que j'aille quand même me documenter, lire plusieurs livres sur. Il y a un livre formidable sur le tournage de Misfits qui s'appelle The Story of the Misfits de James Good, qui a jamais été édité en France, qui est sorti en 62 ou 63, juste après la fin du tournage. Il y a aussi, c'est simple, il y a les biographies de tous les acteurs, c'est con, mais il y a Internet, puisque Marilyn, c'est un fantasme qui est, chaque personne a son propre fantasme de Marilyn, donc chacun a une chose à dire sur Marilyn, donc s'inspirer, chercher des informations, en fait c'est assez simple, il suffit d'ouvrir les yeux.
Well, don't get discouraged, girl. You might.
All right, come on outside, Jack.
Yeah. What's the trouble?
I don't place you floating around here like this. You belong to Gay?
I don't know where I belong.
C'est beau, hein, d'entendre
le réveil. On a juste envie de dire à Marilyn, mais parle plus fort, on t'entend pas comme c'est bien raconté dans votre bande dessinée, Luz, Hollywood menteur.
On a envie qu'elle nous accompagne le matin, qu'elle vienne nous susurrer dans l'oreille, réveille-toi, c'est juste, et puis derrière, Clark Gable, j'ai préparé le café. Allez, venez, réveillez-vous, auditeur de France Culture.
Est-ce que vous avez eu peur au début de devoir dessiner cette icône qu'est Marilyn Monroe?
Au début, je me suis surtout consacré à Montgomery Clift, qui est une icône un petit peu plus en retrait, donc ça a été beaucoup plus simple. Et après, quand j'ai commencé à dessiner Marilyn, effectivement, j'ai eu peur. Je pense que c'était pas mon personnage principal au départ, parce que j'avais peur de me confronter au symbole, à l'icône et aux images. Et aussi, peut-être, c'est là où finalement, quand j'ai commencé à me dire, il faut pas que je laisse tomber la personne qu'il y a derrière le personnage. Je me suis rendu compte que j'arrivais, que toutes les images que j'avais en face de moi, c'était les images d'une femme heureuse, souriante. Et du coup, il a fallu accepter que j'allais pas la dessiner de manière absolument ensemblante, parce que si on veut dessiner Marilyn Monroe telle qu'on l'a dans le cœur, c'est pas la Marilyn Monroe qu'on a sur les posters. Il faut dépasser le poster pour comprendre, peut-être pour comprendre, je sais
c'est
pas,
même
mais
la proposition de votre histoire, quoi, de dépasser le poster, l'image qu'elle donnait d'elle au cinéma, Luz, dans Hollywood menteur. Il y a quelque chose qui nous accroche, on voit Marilyn, on reconnaît Marilyn. Et il faut attendre la fin du livre, c'est-à-dire lire la postface de Virginie Despentes pour se rendre compte que d'une chose incroyable. C'est vrai qu'on n'a jamais vu Marilyn Monroe en colère.
Jamais. Sur l'ensemble des photographies que
c'est
vous avez.
C'est le défi que vous lancez à Virginie Despentes un jour en lui disant, elle a été photographiée par presque tous les photographes qui pouvaient la photographier à ce moment-là. Donc il y a beaucoup de photos, beaucoup de documents de Marilyn. Mais jamais on la voit énervée.
Jamais. C'est terrible, c'est comme une personne qu'on aurait cryogénisée, qu'on aurait mis dans une boule de Noël, qu'on aurait... Marilyn, elle a été piégée, peut-être pas, finalement, par le sexe symbole. Et, ce film, Les Misfits, qui aurait été, qui devait être Miller, son mari à l'époque, voulait lui offrir le rôle de sa vie, le rôle dramatique de sa vie. Et effectivement, on la voit un peu différente, mais on la voit un petit peu perdue, plutôt. Et il y a une scène incroyable qui m'a obsédé très longtemps, c'est une scène où elle est en colère, elle est dans le désert, elle s'adresse à ces trois hommes, à deux cow-boys et un pilote, et elle leur dit « vous êtes des menteurs, vous êtes des lâches, vous n'avez rien compris à la vie, etc. » Et John Huston la filme de très très loin.
Même John Huston
n'ose pas se rapprocher de la colère de Marilyn. Et comme on sait que Marilyn était très proche de Paula Strasberg, Lee Strasberg, les acteurs studios, cette nouvelle méthode d'acting qui est de puiser en soi les émotions pour pouvoir les transmettre à l'écran, je me suis dit, elle a dû puiser en elle, c'est la seule scène dans toute sa carrière où elle est en colère, elle a dû puiser en elle de la colère qu'elle avait cachée, qu'elle avait mise sous le tapis pour pouvoir s'exprimer. Et quand on entend le film, quand on entend la voix de Marilyn qui crie dans ce désert-là, on la voit de très très loin, mais on entend sa voix, on se dit qu'elle hurle quelque chose qui est au fond d'elle-même. Alors j'ai voulu savoir qu'est-ce qu'il y avait au fond d'elle-même. Et au fond d'elle-même, voilà, il y a aussi une femme qui a été un peu maltraitée par Hollywood, qui a aussi été un peu maltraitée par les hommes, plus qu'un peu.
Plus qu'un peu, oui.
Plus qu'un peu, et qui a été, subissait une maladie qui n'était pas très connue à l'époque et que maintenant on connaît un petit peu mieux, qui est l'endométriose, qui permet de comprendre pourquoi elle arrivait un peu en retard sur les tournages. Et après tout, je me suis dit, mais c'est vrai qu'on a un symbole d'une jeune fille glamour, souriante, et puis c'est pratique d'avoir le mythe que le symbole de la féminité soit quelque chose de presque docile. Mais en fait, non, je crois qu'elle n'était pas docile. Je pense que c'était quelqu'un de particulièrement courageux. J'avais envie de qu'on se rapproche d'elle pour voir que c'était peut-être aussi une figure de ténacité, de courage. Et puis les symboles, vous savez, on en fait ce qu'on veut, en fait. On n'est pas obligé d'utiliser les symboles qui datent d'il y a 60 ans. Finalement, Marilyn, on peut en faire un autre symbole, et un symbole de colère. Et un symbole de colère, ça correspond à la femme d'aujourd'hui.
C'est ce que pense d'ailleurs Virginie Despentes de votre travail, de votre approche de Marilyn pendant le tournage de ce film de John Huston, de Misfits. Elle dit que, qu'en voyant Marilyn Monroe dans ses états d'âme, en colère, en voyant Marilyn Monroe malade, Marilyn Monroe...
Avec ses grosses cuisses, moi je me rappelle, Virginie m'a dit, tiens c'est marrant, tu l'as dessinée avec des grosses cuisses, mais ça la rend humaine.
Et raconter les règles douloureuses de Marilyn Monroe, c'était aussi pour lui rendre cette humanité que Hollywood lui avait confisquée.
Et puis aussi pour sortir du côté morbide de la perception qu'on a du film. Le film n'est pas forcément morbide, mais le film est devenu un mythe, pas aussi parce que Clark Gable est mort juste après, parce que Marilyn Monroe c'est son dernier film tourné, achevé entièrement. Et oui, il y a besoin de se rapprocher de ces acteurs pour comprendre qui sont les personnages. En fait, on est dans un grand mensonge qui est un acteur, qui est un personnage, qui est une personne. Et c'est un peu, je pense que Marilyn, la Marilyn en colère nous parle de nous, vraiment.
If you listen, you can hear it call. Whalery. There is a river called the River of No Return. Sometimes it's peaceful and sometimes wild and free. Forever to to be lost in the stormy sea.
Willary,
I can hear the river call.
No return, no return,
no return, no return.
Willary,
I can hear my lover call. Come to me.
No return, no return.
I lost my love on the river, and forever my heart will yearn. Gone, gone forever down the river of no return.
D'un réveil culturel avec Marilyn Monroe, Luz. Hein.
Ah oui, mais peut-être qu'on a envie de retourner sous la couette aussi. Je crois que c'est un morceau. Moi, j'ai la chair de poule là. J'en veux plus. Peut-être les auditrices et auditeurs de France Culture aussi. Il y a quand on l'entend chanter particulièrement dans cette chanson, il y a quelque chose de très masculin. Il y a quelque chose qui il y a une voix, il y a un timbre derrière qui est pas entièrement féminin. Et je pense que c'est ça qui intrigue chez Marilyn Monroe, c'est malgré l'image, malgré le nacre qu'on nous impose, le nacre très glamour, séducteur, bah derrière il y a quelque chose qui peut être aussi séduisant, c'est que je pense qu'elle parle aux femmes parce qu'elle a quelque chose de masculin en elle. Elle parle aux hommes parce qu'elle a quelque chose de masculin, de masculin aussi en elle. Et puis peut-être elle parle aux hommes qui ont quelque chose de féminin en eux, comme moi en tout cas.
Puisque vous parlez de cette période-là, c'est-à-dire du tournage du film de Misfits, c'est le début des années 60, c'est peut-être la fin de l'âge d'or des studios hollywoodiens. On n'est pas d'ailleurs dans un studio hollywoodien, on est au Nevada pour la plupart des séquences, puisque ce sont des séquences tournées en extérieur. Luz, est-ce que ce film, c'est aussi un film qui marque la fin d'un rêve américain vendu par Hollywood?
Oui, je pense que ça a toujours été vu comme ça, et en même temps, je pense qu'il y aura eu une continuité parce que ça marque effectivement une espèce de, pas forcément de, on peut imaginer que c'est une forme de rupture, c'est un des derniers films, c'est un film en noir et blanc, 4 millions de dollars à l'époque, alors que c'est plus du tout la mode. Après, effectivement, vont arriver les Scorsese, les De Palma, un cinéma qui sera plus intimiste. Effectivement, il y a quelque chose qui change là-dedans. Parce qu'on se rapproche des acteurs, mais pas en tant qu'acteur, en tant que personne. Je pense que le film a été Houston a compris qu'il fallait utiliser ces acteurs comme une matière malléable, et que c'était la dernière fois que c'était possible avec des stars. C'était la dernière fois qu'on allait pouvoir montrer vraiment des gens déglingués, et qu'après les gens déglingués, ce seront les personnages, ce seront pas les acteurs.
Est-ce que le caractère tournage maudit du film, c'est ça qui vous a le plus intéressé? Ça va être quand même le dernier film de Marilyn Monroe, le dernier film de Clark Gable. Ça ne va pas s'arranger pour le pauvre Montgomery Clift après ce film, même si là on voit bien... Et vous insistez d'ailleurs pour bien le montrer dans ses délires.
Oui, ben déjà c'est un film maudit parce que c'est un film qui a pas marché du tout. C'est un film qui est... C'est aussi le crépuscule des acteurs eux-mêmes. C'est-à-dire que ce qui est intriguant, c'est de se dire, c'est dans ce film, peut-être même, Clark Gable a tout donné de lui-même. Et c'est parce qu'il a tout donné de lui-même qu'il va claquer d'un arrêt cardiaque deux semaines plus tard. C'est vrai que j'avais envie de voir quel était le... je me suis intéressé où en étaient les acteurs à ce moment-là, où en était Montgomery Clift, qui lui est un acteur génial et qui va donner tout ce qui est possible dans ce film-là, alors qu'après après il va faire quand même un film avec Houston qui s'appelle la passion de Freud, j'ai oublié le titre, et je me suis demandé, mais en fait Il en était où, Montgomery Clift, là-dedans? Ah bah oui, il avait un accident de bagnole, un peu comme James Dean, sauf que lui, il a survécu. Et donc, il y avait cette... j'ai compris que chez Montgomery Clift, il y avait cette angoisse du survivant et cette nécessité de continuer le cinéma parce que c'était la seule chose, c'était le seul mensonge qui lui permettait de survivre à son autre mensonge qui était celui de ne jamais dévoiler son homosexualité. Et voilà, les acteurs étaient encore sont les personnages. On se rappelle plus du nom des personnages de Marilyn Monroe, par exemple. On sait pas. Là, elle s'appelle Roselyne, le personnage, mais dans l'ensemble de sa cinématographie, Marilyn, c'est Marilyn. Et donc là, il fallait s'intéresser au cœur même du personnage, et en particulier du personnage de Marilyn, parce que peut-être elle a quelque chose à nous dire encore à travers toutes ces décennies.
Dans le Hollywood de Luz, on réalise que les corps d'hommes sont soumis dans la fabrication à la même violence que ceux de leurs partenaires. Mythes crucifiés, vaches sacrées qu'on mène à l'abattoir, dans la salle des machines, les corps d'hommes sont tout aussi réprimés, malmenés et exploités. Tous sacrifiés sur l'autel d'un même mensonge. Menteurs quand ils prétendent sourire pour la photo. Menteurs cachant leurs pilules, leurs bouteilles, tout l'arsenal de la béquille chimique. Menteurs quand ils séduisent. Menteurs sur leur douleur qu'ils planquent, sur leur sensation de honte et de grotesque et de pathétique. Menteurs sur leur vie privée, menteurs sur ce qu'ils pensent les uns des autres. C'est ce qu'écrit Virginie Despentes.
Ouais, c'est très juste. Elle a bien vu quelque chose que moi j'avais pas forcément vu tout de suite. C'est que, en fait, dans l'histoire,
ça s'appelle Hollywood menteur.
Mais il y a un petit détail au début, c'est qu'elle a bien perçu que dans l'histoire, les cowboys sont là pour choper des animaux sauvages, des mustangs, les emmener à l'abattoir. Et finalement, au cœur de ce film, malgré le film, finalement peut-être intrinsèquement au film, et ce n'était pas le sujet du film, ce film emmène ses propres acteurs à l'abattoir. Ce film est, c'était pas le scénario du film. Le scénario, c'était peut-être effectivement un monde, un western. C'était comme disait Miller, un eastern, c'est-à-dire un western écrit depuis New York quelque part. C'est un monde qui parle de l'effondre, de comment Hollywood est en train encore une fois en train de bouffer, de hacher menu ses acteurs. Et ça a continué. Ça a continué par la suite, d'une autre manière. Mais c'est pour ça qu'il y a eu MeToo. C'est pour dire, ah ben non, nous, il y a quelques personnes qui sont là pour dire non, on n'a plus envie de se faire hacher menu par Hollywood ou par les prédateurs d'Hollywood.
Et s'il y a cette postface de Virginie Despentes, c'est-à-dire un des plus grands écrivains contemporains français, c'est parce qu'elle se souvient que vous avez été là au début de ces combats féministes. On découvre d'ailleurs des choses sur votre vie, Luz, dans cette postface de Virginie Despentes. Hollywood Menteur, graphiquement, vous multipliez les plans comme si on était au cinéma.
Ah, je sais pas si je multiplie les plans comme si on était au cinéma. Je pense que je suis plutôt obsédé par l'idée du dessin pur. C'est-à-dire que, il faut que le dessin, faut qu'un livre de dessin soit un livre de dessin. Moi, je pense que c'est plus un livre de dessin presque qu'une bande dessinée. Effectivement, il y a un système bande dessinée. Mais ce que je trouve intéressant, c'est j'utilise le pinceau, j'utilise le la vie, j'utilise tout ce qui est.
Mais pour les points de vue, des fois c'est aérien, des fois c'est des gros plans. On a l'impression que de temps en temps vous prenez la grue de l'équipe de John Huston.
Ah peut-être. Mais je pense que pour moi le plus important c'est le trait. Ce qui est intéressant dans le noir et blanc, en tout cas en dessin, c'est que vous laissez du vide à l'intérieur. Vous laissez du vide dans vos personnages. Et c'est là où le lecteur peut se dire je peux piocher quelque chose dans le personnage. Alors quand c'est du pinceau, le vide est encore plus important parce qu'autour le trait est encore plus gras. Et c'est là où je vais emmener mon lecteur ou ma lectrice.
L'album, c'est un album grand format, Hollywood Menteur, édité par Futuropolis. Est-ce que les dessins, ils ont à peu près la même taille que cet album? Je vous dis ça parce que vous allez exposer à partir de demain les dessins de cet album dans une galerie parisienne, c'est-à-dire chez Huberti et Ibrahim.
Oh bah ils sont un peu plus grands même. Ils sont plus grands. Moi, il faut que je réduise un petit peu. Je suis bigleux, vous savez. Je dessine en très 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 grand. Si je pouvais dessiner aussi grand que la Terre, je le ferais.
Ça m'a fait plaisir de vous revoir, Luz.
Moi aussi.
Hollywood Menteur, c'est édité chez Futuropolis. C'est la dernière bande dessinée de Luz et ça raconte le tournage d'un film devenu culte de Misfits, les désaxés de John Huston. Bonne matinée sur France Culture, je vous retrouve lundi.